Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chaque invité depuis chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, plan hôpital, quel prix pour la santé? Depuis le début de l'après-midi se tient à Paris ce que le gouvernement a baptisé un Ségur de la santé, une concertation pour améliorer les rémunérations des soignants, leurs conditions de travail ainsi que la prise en charge des malades. Car l'épidémie de coronavirus, qui n'est pas encore terminée, a montré les failles de notre système de santé, en particulier dans les hôpitaux mais également ailleurs. Plus d'un an après le début d'un mouvement de grève dans ces structures, il est apparu urgent au gouvernement de montrer son intérêt pour certaines des demandes des soignants. Au dire des spécialistes sociologues comme économistes de la santé, ce plan doit être beaucoup plus vaste que ceux qui ont été présentés les mois derniers par ce même gouvernement. Tandis que Libération publie ce matin un appel de soignants qui présente un plan intitulé « Les jours heureux » en référence au programme du Conseil national de la Résistance, et que le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, déclare dans Les Échos toujours ce matin qu'il faut libérer l'hôpital de ses carcans. Nous réunissons ce soir pour le temps du débat, trois chercheurs qui travaillent sur la réforme du système de santé. Laurence Hartmann est économiste de la santé, maîtresse de conférence au CNAM. Elle est membre du laboratoire LIRSA. Clémence Thébault est économiste et philosophe, maîtresse de conférence en économie de la santé à l'Université de Limoges, chercheuse associée au LEDA Legos de Paris-Dauphine. Elle est membre du Collège des économistes de la santé. Et Frédéric Piru, enfin, est politiste, sociologue, chercheur au CERAPS CNRS Lille 2. Il a coécrit il y a quelque temps, c'était en 2019, le casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public chez Raison d'agir. Et il a dirigé avec le professeur André Grimaldi, professeur émérite à la Pitié, Santé Urgence, qui sera publié dans un instant, c'est-à-dire après-demain, chez Odile Jacob. Bonsoir Laurence Hartmann.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous Clémence Thébault.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, Frédéric Piru.
Bonsoir.
Alors, on a l'impression tout de même qu'à lire les publications qui paraissent chaque mois ou presque depuis quelques années, il y a presque autant de livres sur l'hôpital public qu'il y en a, ou sur le système de santé qu'il y en a, sur l'école à la rentrée au mois de septembre. Ça veut donc dire que cette crise est profonde, qu'elle nécessite des regards multiples. Parmi ceux-ci, il y a le vôtre, en l'occurrence, Frédéric Piru, pour Santé Urgence. C'est un collectif que vous avez réuni avec le professeur André Grimaldi, mais aussi, il y a quelque temps, avec Fanny Vincent et Pierre-André Juvin, vous aviez fait le casse du siècle. Ça veut dire qu'il y a besoin justement de proposer, comme le font les soignants dans Libération ce matin, des plans pour pouvoir nourrir la discussion démocratique autour de l'hôpital.
Oui, enfin, d'abord, je pense que les sciences sociales ont vu venir la crise que les pouvoirs publics n'ont pas forcément vu venir.
C'est sûr.
Donc les sciences sociales effectivement ont documenté depuis, je pense aux travaux de Nicolas Bélanger et d'autres, donc la crise de l'hôpital public qui n'est pas le système de santé. Hein. D'ailleurs, peu le reproche que je ferais au Ségur de la santé, parce que c'est quand même très hospitalo-centré pour un Ségur de la santé.
Donc, alors que votre livre sur santé, Urgence prend en compte la totalité du système de santé, on pourrait dire.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée de ce livre, c'est que notre système de santé, qui est très performant pour les maladies aiguës bénignes et les maladies aiguës graves, n'est pas adapté à l'épidémie de maladies chroniques qui est en train de se déployer et qui nous coûte une fortune, mais qui aussi est très socialement et sanitairement coûteux. Et puis, on l'a vu, le fait que la santé publique est finalement la dernière roue du carrosse, et on l'a vu avec la crise du Covid-19. Donc, ce que la crise du Covid-19 montre, c'est que notre système de santé n'est plus adapté aux défis actuels du système de santé.
Voilà. Alors, il y a, pour y réfléchir, des gens comme vous qui sont politistes ou sociologues, il y a aussi des économistes de la santé, comme vous-même, Laurence Hartmann ou Clémence Thébault. Qu'est-ce que cette spécialité d'économie de la santé, qui est une spécialité relativement neuve, pourrait-on dire, il y a quelques décennies qu'elle existe, est-ce que c'est justement parce que, eh bien, à partir des années 90, on a commencé à réfléchir, ou 80, on a commencé à réfléchir au coût de la santé, au prix de la santé, à la nécessité justement de rationaliser cette économie de la santé? Laurence Hartmann.
Oui, tout à fait. Effectivement, ce questionnement a surgi au fur et à mesure de l'évolution très dynamique des dépenses de santé après la Seconde Guerre mondiale. Et des études ont été nécessitées, notamment alors à travers d'abord l'économie publique qui a cherché à mettre en œuvre des instruments d'évaluation de la dépense publique. Et puis plus précisément, voyant la part finalement de la santé dans la richesse nationale, ce sont des spécialistes de l'économie appliquée à la santé qui se sont finalement réunis pour essayer de travailler sur un certain nombre de thématiques, aussi bien des thématiques relatives à la régulation des dépenses globales, macroéconomiques, mais aussi des thématiques qui sont relatives à l'évaluation médico-économique, c'est-à-dire comment finalement arbitrer entre différentes stratégies thérapeutiques, rembourser ou non les médicaments, toutes les questions qui sont relatives au déremboursement, par exemple, comme l'homéopathie, ressortissent complètement à ces questions.
Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette économie de la santé, par rapport au reste de l'économie, d'une certaine façon ? Parce qu'on peut se poser la question de savoir, voir croître justement ce secteur d'analyse qui est le vôtre, Laurence Hartmann et Clémence Thébault, qu'est-ce que ça a de spécifique et en quoi justement il faut un métier pour pouvoir l'analyser différemment, pourrait-on dire, des autres secteurs de l'économie par exemple ?
Alors, la spécificité, c'est le financement public qui est tout à fait majoritaire dans les dépenses de santé, bien puisque sûr. 80% de la dépense est financée, est socialisée, financée sur fonds publics. Et donc, ça justifie complètement qu'on s'interroge non seulement sur l'opportunité de les ressources qui sont consacrées à la santé. À l'heure actuelle, c'est 11% de nos richesses nationales, donc au total, donc environ 9%, 8-9% de dépenses publiques. Et également sur l'efficience de cette dépense. On a un droit de regard en tant que contributeur, contribuable.
Clémence Thébault, vous êtes à la fois économiste de la santé, maître de conférences dans ce domaine à l'Université de Limoges, mais aussi philosophe, et vous travaillez sur la valeur sociale de la santé, c'est-à-dire sur la façon dont nous-mêmes, chacun d'entre nous, eh bien, considérons que nous sommes prêts ou pas à payer collectivement pour justement améliorer ce système de santé qui est le nôtre.
Oui, 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 tout à fait. C'est pour compléter peut-être la réponse de Laurence Hartmann, une des spécificités de l'économie de la santé, mais c'est pas la seule discipline dans laquelle on se trouve confronté à cette situation. Les investissements que l'on fait dans des programmes vont générer des gains qui peuvent être monétaires. Par exemple, si j'investis dans un programme de prévention ou de vaccination, je vais effectivement avoir des économies à court ou moyen terme en termes d'hospitalisation évitée, mais je vais avoir des bénéfices non monétaires, de la survie, une diminution d'un risque de décès.
C'est le principe du service public, d'une certaine façon, pourrait-on dire. Et c'est difficile, d'une certaine façon, de monétiser un service qui permet justement aux gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé, par exemple.
Voilà, et c'est justement un des challenges des économistes de la santé, mais c'est aussi un challenge des économistes dans le secteur des transports ou de l'environnement, c'est de pouvoir aider le décideur à évaluer l'opportunité d'un investissement, c'est-à-dire voir si le surcoût qui est induit par le programme vaut les bénéfices, sachant que ces bénéfices sont intangibles, non monétaires. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser des méthodologies qui sont développées depuis plusieurs dizaines d'années, qui permettent d'évaluer ce qu'on appelle la valeur sociale de la vie ou de la santé, et qui consiste effectivement, comme vous l'avez dit, en fait, à interroger les individus sur ce que eux sont prêts à payer pour leur propre santé, et à agréger ensuite ces valeurs individuelles au niveau collectif pour avoir des références.
Il y a, j'imagine, du structurel là-dedans, mais il y a aussi du conjoncturel. J'imagine que si on interrogeait les gens il y a 3 mois sur ce qu'ils étaient prêts à payer pour la santé, et si on les interrogeait aujourd'hui, eh bien, ils n'auraient pas la même réponse, Clémence Thébault.
Alors, effectivement, on peut tout à fait le penser, mais finalement, quand on regarde les travaux sur lesquels les travaux des économistes déjà avant la crise, on voyait que la valeur accordée à la santé était très importante.
D'accord.
L'ensemble des données montraient des valeurs tout à fait. Et d'ailleurs, si on met en perspective le coût du confinement tel qu'estimé approximativement jusqu'à présent par différentes institutions, et qu'on le met en perspective avec le nombre de milliers de vies sauvées, il est possible que finalement on retombe sur des valeurs qui étaient celles déjà estimées par les économistes.
Oui, Frédéric Pierru, d'ailleurs, ce que disent les soignants dans Libération ce matin dans cet appel qui s'appelle « Les jours heureux », c'est dès lors que la question a été mise au service des équipes soignantes médicales et paramédicales à l'hôpital, ce qui était jugé auparavant impossible est devenu soudainement faisable, l'impensable est devenu réalité. C'est aussi cela dans le domaine de la santé ou de l'économie de la santé qui s'est passé avec la crise du Covid, et vous dites vous-même que d'ailleurs le confinement total, c'est le prix du manque de moyens auparavant. C'est-à-dire que si on a confiné les gens, c'est parce qu'on n'avait pas suffisamment investi, selon vous, donc dans les moyens économiques d'avoir un secteur performant pour pouvoir passer une crise comme celle du coronavirus.
Oui, enfin, on s'aperçoit à la faveur de cette crise pandémique de Covid-19 que le cadre budgétaire qu'on avait naturalisé et que l'on considérait comme un ça va de soi, c'est-à-dire que ça n'est pas possible, il faut faire des économies sur l'hôpital, il faut faire le virage ambulatoire, etc.
Le virage ambulatoire pour nos auditeurs.
Alors le virage ambulatoire, c'était l'idée qu'il fallait faire maigrir l'hôpital pour transférer un maximum d'activité, soit par exemple en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire les personnes rentrent le matin et sortent le soir et retournent chez elles, soit déléguer au maximum la médecine de ville, les activités qui étaient prises en charge par l'hôpital. Mmh. Bon, eh bien, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce qui est venu se fracasser sur l'épidémie de Covid, c'est l'utopie de l'hôpital de flux. C'est-à-dire, vous savez, l'hôpital revu par le lean management, c'est-à-dire un hôpital qui n'a pas de lit en trop, pas de ressources.
Ou le new public management.
Le lean management, c'est-à-dire le management sans gras, qui a fait le miel des consultants à l'hôpital au cours de ces dernières années. Et effectivement, l'idée, c'était que dès qu'un malade quitte un lit, il y a un autre malade qui arrive, pour faire court. Hein. Mm-hmm. Bon, et on s'aperçoit qu'il fallait effectivement, alors sur les lits de réanimation, qu'il fallait un stock de lits même inoccupés. Donc quand je dis des lits, c'est aussi des personnels. Hein. Donc évidemment, des médecins, des infirmières, etc., de façon à prévoir l'imprévisible. Or, il se trouve que la pandémie de Covid est venue rappeler à nos gestionnaires épris de New Public Management et de Lean Management que il faut avoir des stocks de ressources. Mm-hmm. Donc c'est me semble-t-il ce que montre cette pandémie de Covid, c'est que ce cadre budgétaire effectivement est en train de sauter, mais à quel point il va sauter. Parce que là, le Ségur de la santé est en train de se mettre en place, mais voilà. Donc,
On va y revenir avec vous et avec nos autres invités. Laurence Hartmann, est-ce que ça n'est pas ce qui est en train de se passer, en particulier avec cette crise du coronavirus, ça n'est pas une sorte de pierre dans le jardin des économistes de la santé qui ont accompagné toutes ces réformes les unes après les autres, en disant tout compte fait, par exemple, la tarification à l'activité, eh bien c'est bon pour le système. Il faut effectivement, alors qu'aujourd'hui on entend tout le monde dire, eh bien écoutez, c'était peut-être une bonne idée, mais au bout du compte, ça n'a pas conduit ni aux économies qu'on espérait, ni même à une meilleure efficience de l'hôpital public, par exemple, Laurence Hartmann.
Oui, c'est vrai. Rétrospectivement, il y a 20 ans, donc on avançait la tarification à l'activité comme la panacée par rapport au budget global, au prix de journée qui préexistait. Je pense pas qu'il faille être passéiste, parce que c'était vraiment des dispositifs de rémunération qui engendraient un grand nombre d'effets pervers eux-mêmes. En revanche, effectivement, au début de la mise en œuvre de la tarification à l'activité, qui a été en fait déployée quasiment dans la plupart des pays développés, on a quand même eu les effets escomptés, c'est-à-dire des gains d'efficience, un souffle, vraiment une bouffée d'oxygène pour les hôpitaux qui étaient complètement étranglés par leur budget. Parfois, ils arrêtaient leur activité quasiment de manière caricaturale, on va le dire, en novembre.
On n'avait pas l'impression l'année dernière que c'était une bouffée d'oxygène pour les hôpitaux.
Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment la dernière décennie. Et là, franchement, quand on regarde vraiment les publications des économistes, notamment Brigitte Dormont qui a travaillé
sur
le sujet.
Et qui a collaboré au livre de Frédéric Pierru.
Tout à fait, qui
a
fait un excellent article dans ce livre. On voit bien dans ces différents écrits des dernières années qu'elle est extrêmement critique par rapport à la façon dont ça a été mis en œuvre. Et pourquoi ? Parce que elle a été mise en œuvre de manière très bureaucratique, très centralisée, très lourde et très illisible pour les hôpitaux, puisqu'en fait les règles ne sont pas annoncées comme elles devraient l'être. Les tarifs ont diminué dans le temps, bien que les hôpitaux faisaient des économies, parce que l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif assigné aux soins de ville,
l'objectif national des dépenses
d'assurance maladie, donc il est découpé en secteur soins de ville, hôpital. Cet ONDAM pour les soins de ville avait tendance à être donc dépassé, et le dépassement finalement l'a fait porter sur les hôpitaux. Donc c'est eux qui ont vraiment dû subir cette contrainte budgétaire énorme, qui a conduit de ce fait fait à un certain nombre de stratégies, donc de stratégies pour encore réduire les coûts et notamment des manipulations de la qualité et de réduire finalement ce qui est finalement invisible en termes de qualité des soins, notamment le temps soignant et ce qui a débouché finalement sur la crise des soignants depuis un an. Oui, juste pour compléter, en fait, il faut voir que ce dispositif effectivement donc de tarification, pour qu'il fonctionne bien, repose sur un très grand nombre d'hypothèses qui sont assez difficiles à réunir. Et les économistes, il y a 20 ans déjà, préconisaient plutôt des schémas mixtes de paiement pour les établissements de santé, du fait justement de la difficulté d'organiser une vraie concurrence, parce que c'était un mécanisme concurrentiel. Au final, cette concurrence, et je pense que c'est ça aussi que les économistes parfois peut-être ont négligé, dans un hôpital de 1000 personnes, en fait, c'est pas un agent économique tout seul, c'est un conglomérat, donc deux personnes qui vont finalement donc se voir mises en concurrence au niveau interne, c'est-à-dire que chaque service est en concurrence
entre services,
eux. Ils sont mis en concurrence entre eux, l'information déclenche des conflits et au final on a vraiment une ambiance tout à fait délétère qui s'est mise en œuvre également à la suite de cette tarification de l'activité.
Clémence Thébault, vous nous avez conseillé de lire un article de Jean-Claude Moidon qui s'appelle Le paradoxe de la boîte noire, qui est un article un peu ancien, qui date de 2012, mais qui décrit justement le long chemin, pourrait-on dire, de l'hôpital public, depuis la planification telle qu'elle était pensée dans les années 60 en particulier, jusqu'à justement ces grandes réformes des années 90 qui nous ont conduit à cette tarification à l'activité et qui ont conduit, disons, à ce que les gestionnaires d'un côté, le gouvernement d'un côté et les gens sur le terrain de l'autre n'arrivent plus à parler la même langue, à se comprendre et donc à une sorte de malaise terrible entre ceux qui donnaient les ordres, les nouvelles lois qui étaient votées chaque année ou presque sur l'hôpital, et puis ceux qui devaient les appliquer avec beaucoup de difficultés parce que les moyens étaient de plus en plus rares.
Oui, effectivement, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Laurence Hartmann. En fait, pour comprendre les raisons de cette crise à l'hôpital, bon, elles sont très nombreuses et très compliquées, mais il y a des éléments très techniques qu'il faut avoir en tête pour comprendre comment, de façon évidente, on arrive à cette situation et qui sont bien décrites par Moidon dans cet article et dans d'autres. En fait, la T2A consiste à payer l'hôpital à partir d'un financement au séjour et le séjour lui-même est déterminé initialement à partir d'une estimation du coût moyen de production du séjour dans un échantillon représentatif d'établissement. Mais il a été décidé finalement, pour des raisons politiques, d'ajuster le tarif en fonction de l'ONDAM. C'est ce qu'évoquait Laurence. Donc une enveloppe fermée. Si bien que si l'ONDAM baisse, comme ça s'est passé depuis maintenant une dizaine d'années, eh bien le tarif baisse.
Si la dotation baisse, oui, effectivement.
Voilà. Et si les établissements réagissent face à cette baisse de tarifs, c'est-à-dire qu'on a des prix plus bas que le coût de production, donc nécessairement on est en situation de pénurie, et si les établissements réagissent en augmentant le nombre de séjours qu'ils réalisent, eh bien le tarif continue de baisser encore plus.
Et oui, donc, ce qui est finalement paradoxal, effectivement.
C'est ça qu'il faut comprendre, me semble-t-il, c'est que c'est la T2A a des défauts, hein, c'est certain, mais il a surtout des défauts dans un contexte d'ONDAM très bas, puisque depuis maintenant 10 ans, on est à un ONDAM qui approxime les 2%, qui a même été inférieur à 2%, alors qu'au début de 2004, il était plutôt autour de 4%.
Oui.
Et donc, dans un contexte aussi où on a des directions hospitalières qui ont incité les équipes à multiplier le nombre de séjours. Vous voyez, le cercle vicieux, voilà. C'est pour ça qu'une des questions principales, c'est quand même... Bon, il y a la question de la remise en cause de la T2A, mais c'est quand même aussi... plus simplement la question de l'ONDAM, c'est-à-dire accepter collectivement
de payer plus
de pour que du coup on ait des tarifs équivalents au coût de production. C'est un élément central du
Frédéric Pierru, un autre auteur récent de livre, c'était Repenser l'hôpital, c'était Michel Tsimaratos qui est professeur à la Timone, disait aucun des nombreux rapports sur l'hôpital n'a fait l'impasse sur l'aspect humain du soin. Mais il a toujours été escamoté, disait-il, cet aspect humain du soin, sous un verbiage financier, sous une novlangue administrative. Et on a l'impression, en vous lisant, en lisant tous les articles sur ce sujet, effectivement, Frédéric Pierru, qu'il y a eu la création à la fois d'un monstre, pourrait-on dire, un monstre administratif, financier, verbeux, qui n'avait plus rien à voir avec la pratique, très lointainement à voir avec la pratique du soin telle qu'on a pu la voir dans la crise du coronavirus, par exemple.
Je pense que là, vous désignez le cœur du réacteur de la crise hospitalière. Alors, je ne pense pas que d'ailleurs la source ou les sources de la crise hospitalière soient si complexes que ça. Hein, si vous voulez, c'est entre 2010 et 2019, l'activité a augmenté de 14,6%, alors que le volume de soins produits par les hôpitaux et les personnels ont augmenté de 2%. Donc, il y a eu une intensification du travail, une dégradation des conditions de travail et il y a eu le gel du point d'indice, c'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir d'achat a baissé. Donc, si vous mettez ces trois ingrédients dans la marmite, vous avez quand même une crise hospitalière majeure qui se prépare. Et là, vous signalez le quatrième ingrédient, qui est effectivement, me semble-t-il, une sorte de... Alors, c'est marrant, parce que c'est administratif, c'est plutôt managérial, parce que c'est une love langue managériale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que effectivement, on a eu une espèce de prolifération bureaucratique qu'on observe d'ailleurs assez dans toutes les organisations. Hein. Béatrice Hibou a appelé ça la bureaucratisation néolibérale du monde, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une seconde vague bureaucratique, et donc on a vu le millefeuille bureaucratique enflé avec une langue de plus en plus autoréférentielle.
Sans compter les acronymes du milieu comme moi, effectivement, deviennent incomprensibles.
Ce qui est quand même un problème quand on parle de démocratie sanitaire, que le système devient absolument illisible, y compris par ses spécialistes. Hein. Donc, je ne parle pas des profanes. Mais on a eu, et je pense que c'est 2009, HPST qui a en quelque sorte donné tous les pouvoirs au directeur.
Alors HPST, c'était la loi Bachelot.
Hôpital Patient Santé Territoire, voilà. Bachelot de 2009.
La loi Bachelot 2009.
Et effectivement, on a eu en fait en quelque sorte la consécration d'un pouvoir gestionnaire qui, dans le même temps, s'autonomisait du soin. Quotidien.
C'est ce que voudrait, entre guillemets, c'est ce que voudrait réparer un Ségur de la santé, c'est-à-dire en mettant tout le monde autour de la table, en disant, voilà, il va peut-être falloir justement que tout le monde arrive à discuter, parce qu'à un certain moment, on n'arrivait plus à discuter entre directeurs nommés des hôpitaux et personnel soignant représenté par les grands médecins de chacun des hôpitaux, par exemple.
Oui, non, mais vous avez, enfin, c'est totalement exact. C'est-à-dire que HPST a en quelque sorte consacré le pouvoir des gestionnaires qui étaient dans le même temps de plus en plus coupés du soin, alors que tous les travaux, je dirais, de sciences sociales et même de sciences de gestion, je pense à Henri Mintzberg notamment, qui disent que, en fait, en quelque sorte, le management des hôpitaux doit se faire au plus près des équipes de soins. Donc on est allé dans une forme de centralisation, de technocratisation et de managérialisation à outrance, qui a été comme un lit de Procuste pour les activités de soins. Je pense à des indicateurs absurdes, etc. Bon, voilà, je pense le temps d'attente aux urgences, etc. Bon, voilà. Et donc c'est ça qu'il faut, c'est peut-être aussi remédicaliser la gouvernance des hôpitaux.
On en discute dans un instant avec vous-même, Frédéric Pierru, Clémence Thébault et Laurence Hartmann, dans le temps du débat, pour tenter de répondre à la question « Quel prix pour la santé ?»
Le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un titre que m'a fait découvrir notre réalisateur Olivier Bétain, Hospital Food des Hills, effectivement, qui dit effectivement je veux manger de la bouffe d'hôpital. Ça n'est peut-être pas le souhait de tous ceux qui s'y rendent régulièrement, mais en tout cas, c'est ce titre-là que nous avons choisi pour pouvoir faire la pause de notre émission Le Temps du Débat, consacré donc aujourd'hui au plan hôpital, quel prix pour la santé, avec Laurence Hartmann, Clémence Thébault et Frédéric Pierru. Alors quand on réfléchit à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le début de ce Ségur de la santé, quand on lit par exemple une interview ce matin du patron de la PHP, Martin Hirsch, il dit il faut libérer l'hôpital de ses carcans, il faut débarrasser l'hôpital des pesanteurs bureaucratiques. On vient d'en parler avec vous, Frédéric Pierru, et on entend le Premier ministre dire le temps de travail n'est pas un tabou, le maître mot c'est le pragmatisme, il faut changer dans le quotidien, et puis etc. etc. On se dit, tout cela peut être pris dans un sens ou dans l'autre, Laurence Hartmann. Quand on entend un discours comme celui-ci, on se dit il n'est peut-être pas si éloigné du discours qu'on tenait encore il y a 3 ou 4 mois avant la crise du coronavirus.
Oui, alors effectivement, libérer l'hôpital de ses carcans, c'est en fait le recentrer sur sa mission première, qui est vraiment d'offrir, à mon sens, des soins hautement techniques et pas d'occuper la moitié quasiment de l'espace des soins en France. Hein. Donc cet hospitalocentrisme qu'on constate aujourd'hui, il résulte de deux phénomènes. Le phénomène de tarification de l'activité qu'on a évoqué, c'est-à-dire en fait cette course à l'activité encore plus engendrée par la baisse des tarifs, mais également de la place que lui fait jouer finalement le secteur des soins de ville, puisque le secteur des soins de ville a de nombreuses insuffisances, qu'elles ressortissent de l'offre ou qu'elles ressortissent de la demande. Mmh. Alors pour l'offre, la lenteur de déploiement de la télémédecine, l'incapacité pour certains de se rendre donc à des soins de médecins généralistes, c'était d'ailleurs mentionné sur votre antenne récemment, donc notamment dans certains départements comme le 93, tout ceci concourt en fait à amener les patients à recourir aux services hospitaliers, de même que les failles dans la couverture, comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, dans le journal. Là aussi, il y a encore des failles en France dans la couverture qui n'est pas si généreuse que cela pour une partie des risques, eh bien, amène les patients à consulter l'hôpital. Donc l'hôpital, finalement, occupe une place très importante et finalement...
Trop importante des soins qui
Trop importante, certainement.
C'est pour ça que vous parlez d'hospitalocentrisme, c'est ça?
Ah oui, hospitalocentrisme, oui, c'est pas du tout dans un sens péjoratif, bien sûr, et pas pour mettre de l'huile sur le feu, au contraire. Mais c'est-à-dire que cet hôpital, il faut justement en prendre soin et ne pas lui faire subir l'hospitalocentrisme auquel il est contraint, à la fois par la stratégie qui est la seule possible pour lui, c'est-à-dire cette course à l'activité, et par ailleurs, par les soins de ville qui, finalement, ne sont pas soumis aux mêmes règles plus drastiques de gestion, de régulation. Donc là aussi, il y a vraiment encore beaucoup à faire pour pouvoir lui permettre de retrouver son souffle et son espace.
Oui,
pour compléter...
Oui. Oui. Allez-y, brièvement.
Cette idée, en fait, quand on regarde la place de l'hôpital public, de l'hôpital dans son secteur général, au regard des autres pays développés, on se rend compte que nous sommes l'un des pays où ce secteur est le plus important.
Mais tout de même, Frédéric Pierru, ça sera sûrement difficile d'arracher des pratiques qui s'étaient installées depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. D'ailleurs, dans l'appel des soignants de Libération, eh bien, il commence en disant les directions viennent expliquer aux soignants exténués après la crise du Covid comment refaire marcher l'hôpital comme une entreprise commerciale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout ce que nous avons décrit de l'évolution de l'hôpital depuis maintenant une vingtaine d'années. Il y a des pratiques qui sont mises en œuvre. Il y a ces tensions entre soignants d'un côté et direction des hôpitaux nommés qui doivent tenir un budget de plus en plus serré. Et évidemment, si tout cela ne change pas profondément, ça ne changera pas justement le quotidien des soignants, Frédéric Pierru.
Oui, alors d'abord, effectivement, ce qui vient d'être dit est très juste, hein, c'est-à-dire que il y a des carences graves de la médecine de ville, hein, les déserts médicaux, la banalisation des dépassements d'honoraires, les refus de soins aux bénéficiaires de la CMU complémentaire, donc tout ce qui participe de l'embolie des urgences. C'est d'ailleurs ce que je regrette dans ce Ségur de la santé, c'est-à-dire c'est un Ségur de l'hôpital en fait, hein, donc et qui vise à répondre, je dirais, au mouvement de contestation de l'hôpital et pas aux défis de l'ensemble du système de santé, pour une raison simple, c'est que l'assurance maladie a la main sur la médecine de ville. Mmh. Donc ça, c'est quand même un point très important. Ensuite, le deuxième point, c'est après l'épidémie de Covid. Effectivement, moi, écoutant beaucoup les médecins, je vois bien que les gestionnaires veulent revenir au galop pour en quelque sorte, après la crise, réorganiser le système. Sauf que ça ne va pas passer quand même comme une lettre à la poste. Hein. C'est-à-dire que...
On l'a bien compris, effectivement.
Avec la pandémie de Covid-19, si vous voulez, les premiers de corvée, hein, selon l'expression consacrée désormais, ont pris conscience de leur dignité. Et donc, je pense que ça va être très compliqué pour les gestionnaires de rejouer, si vous voulez, cette forme de violence symbolique qu'ils exerçaient avant.
Quoi. Et quand Martin Hirsch, qui s'est converti rapidement à ce qui est en train, à la nouvelle donne, pourrait-on dire, en tant que directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, dit ce matin dans Les Échos, il faut donner le pouvoir à une équipe plutôt que la confrontation permanente entre justement les responsables médicaux et les directeurs d'hôpitaux sur le budget. Ça veut dire avoir une sorte de direction collégiale, j'imagine, des hôpitaux. Est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous?
Oui, ça va dans le bon sens, mais après, si vous voulez, ça fait quand même 20 ans qu'on accumule les rapports. C'est pour ça que je suis surpris de ce Ségur aussi de la santé, parce que
il suffirait déjà
de faire une méta-analyse de tous les rapports, les bouquins qui ont été écrits sur le sujet. Je pense qu'on
Ce que disait Michel Simaratos à propos de son livre Penser à l'hôpital.
Je l'ai pas lu, mais on est assez d'accord. Hein. Enfin, c'est-à-dire que déjà, on aurait fait une méta-analyse et on aurait déjà des pistes de réflexion. Mais bon, c'est sans compter sans la dimension politique de cette affaire. Mmh. Mais voilà. Donc moi, j'attends de voir. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Hein. Mmh. Donc ça fait 10 ans qu'on entend les pouvoirs publics dire qu'ils vont redonner le pouvoir aux équipes. Et puis voilà, on a renforcé le pouvoir des pôles, des directions. On a fait des GHT, nouvelle usine à gaz. Voilà.
Oui, parce que parallèlement, Martin Hirsch dit le statut tue le sens. Il faut peut-être changer les statuts, etc.
Oui, mais c'est le vrai risque. Hein. C'est-à-dire que je vois bien que les pouvoirs publics vont profiter de cette crise de pandémie, de cette pandémie pour faire sauter le verrou des 35 heures, etc. Donc moi je vois assez bien où ça va aller, c'est-à-dire effectivement travailler plus pour gagner plus.
Oui, Clémence Thébault, évidemment le politique il est aussi intéressé par la façon dont les citoyens envisagent ces questions-là. Vous travaillez sur la valeur sociale de la santé. On comprend, et vous nous l'avez dit en tout début de cette émission, que les Français étaient d'accord justement pour augmenter avant même la crise du Covid, pour augmenter les capacités justement de soins, pour augmenter les budgets autour du soin, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut tenir haut et longtemps justement ce désir des citoyens de voir la santé parmi les principales dépenses de l'État?
Alors, je vais peut-être nuancer ce que j'ai dit en début d'émission. Effectivement, les valeurs révélées pour la santé sont élevées. Ces valeurs théoriques.
Est-ce qu'on met un prix en face?
Voilà. Est-ce qu'on met un prix en face? Nous, les économistes, effectivement, on estime, on mesure cette valeur monétaire que les gens sont prêts à mettre pour leur santé. Donc, par exemple, on leur pose des questions. Il y a plein de méthodes différentes, mais qui permettent d'évaluer la part du revenu que les gens sont prêts à sacrifier en échange d'une meilleure santé ou plus précisément d'une amélioration des probabilités de survie ou d'atteindre une certaine espérance de vie. Mais après, c'est vrai que là, c'est un sujet difficile parce qu'effectivement, on peut avoir une valeur élevée pour la santé. Et après, dans la pratique, il y a finalement une forme de réticence, une forme d'acceptation réelle à payer qui peut être un petit peu en désaccord par rapport à cette déclaration théorique. Et c'est là qu'il y a aussi dans ce
on
sujet...
On voudrait de l'opéra à 20h30 et quand il y en a, on ne la regarde pas.
Donc je pense que tout ce qui a été dit sur le management, c'est extrêmement important, extrêmement intéressant, mais il y a aussi une part de responsabilité finalement du côté de l'usager, de nous tous. Finalement, on a tous profité de ces gains de productivité qui étaient imposés à l'hôpital parce que ça nous permettait de profiter de gains en santé pour un coût le plus bas possible. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, on atteint une limite, me semble-t-il, parce que ces gains de productivité, ils ont fini par détériorer le bien-être des soignants. Mmh. Et donc, du coup, vous voyez, on est dans une situation où il y a potentiellement un conflit entre notre bien-être à nous, usagers, qui pouvions, vous voyez, utiliser les économies réalisées pour les consommer ailleurs, et le bien-être des soignants. Et je pense que là, maintenant, c'est aussi un vrai débat de société d'accepter de payer plus, effectivement, pour des soins avec, du coup, des conditions de travail tout à fait souhaitables et meilleures. Je pense, et il faut absolument aborder ce sujet-là parce que trouver... une solution ailleurs, il y en a, on peut toujours améliorer l'efficience des soins, il y a des milliers de travaux à faire, mais à un moment, on ne pourra pas faire autrement, me semble-t-il, que d'accepter une augmentation des dépenses, contrôlée bien sûr, mais une augmentation des dépenses et donc un sacrifice de chacun pour des soins produit dans des bonnes conditions.
Oui, parce que effectivement, on a déjà tiré dans beaucoup de sens, Laurence Hartmann. On a essayé justement de convaincre les médecins de s'installer dans des territoires où ils n'étaient pas les médecins de ville pour pouvoir justement avoir une médecine libérale et éviter que les urgences des villes, en particulier dans les grands milieux ruraux, le milieu rural ne soit trop envahi. On a essayé de développer la télémédecine. Vous disiez tout à l'heure que ça n'avait pas tout à fait marché. On a essayé, par exemple, de mettre un nouveau statut, l'infirmier en pratique avancée, qui pourrait prendre certaines des fonctions qui étaient traditionnellement dévolues aux médecins. Ça ne marche pas non plus complètement.
Oui, tout à fait. Et c'est là, en fait, que je pense les membres du gouvernement sont complètement attendus sur la mise en œuvre finalement finale de ce Ségur de la santé, s'il concerne bien, in fine, la santé au sens de la réforme à venir, Ma Santé 2022, donc avec véritablement...
C'est une réforme qui était entamée avant la crise du Covid.
Tout à fait.
Et qui doit se poursuivre, mais s'améliorer, puisque c'est une sorte d'amendement à cette réforme qui doit être fait à l'issue de ce Ségur de la santé.
Absolument. Et c'est vrai qu'au-delà en fait des questions qui sont vraiment fondamentales, qui ont été mentionnées par Clémence Thébault, notamment sur le prix à payer aujourd'hui, donc pour avoir fait courir aussi un risque aux soignants, continuer à leur faire courir un risque, et en tenant compte du niveau général des prix dans le système de santé français qui est bas relativement aux autres pays de l'OCDE, qui est donc plus bas que la moyenne des pays de l'OCDE, donc ça c'est quand même notable comme élément, eh bien il faut vraiment qu'on mette un coup d'accélérateur, qu'on profite quelque part de cette crise sanitaire pour mettre un coup d'accélérateur à ces dispositions qui sont plutôt bonnes dans le principe, mais qui doivent trouver véritablement une manière opérationnelle de se concrétiser. C'est notamment le rôle pivot à donner aux infirmiers de pratique avancée, puisque à la fois c'est une façon de reconnaître plus de compétences, de évidemment les rémunérer davantage.
Et peut-être
davantage.
De faire monter aussi tous les statuts un tout petit peu vers le haut à chaque fois.
Absolument. Et en plus des expériences...
Les aides-soignantes vers le statut d'infirmier, etc.
Tout à fait. En fait, la moitié des personnels hospitaliers gagnent moins de 1900 euros. Hein. C'est le salaire médian mensuel, donc net. Donc évidemment, là, il y a besoin vraiment d'une revalorisation. Mais aussi, peut-être, pour accompagner donc cette sortie des murs de l'hôpital, pouvoir proposer donc ces statuts d'infirmier de pratique avancée avec des compétences spécifiques. Et puis, sur la base d'expériences qui ont déjà très bien fonctionné, comme des expériences qui s'appellent Azalée en France depuis 20 ans, des infirmières donc identiques hein, dans les compétences infirmières de santé publique vont faire d'éducation thérapeutique, et des évaluations économiques ont été menées, ont montré combien ça pouvait être profitable à la fois en termes d'efficience au niveau qualité des soins, mais bien sûr aussi de coûts, de hospitalisation évitée par exemple. Donc là, véritablement, il faut mettre un coup d'accélérateur là-dessus. Ça permettrait aussi de résoudre une partie des problèmes justement de l'installation tout à fait inégalitaire sur le territoire des médecins. Et puis, il faut aussi quand même souligner que le Covid-19 a mis un coup d'accélérateur très important au numérique, puisque je pense que chacun l'a pu le constater. Il était possible subitement de pouvoir consulter ces médecins généralistes et spécialistes, via des...
À distance.
À distance, absolument.
Frédéric Pierru, on voit tout de même qu'il y a des tensions sur les solutions à apporter à cette crise de l'hôpital en particulier, qui est au cœur de ce Ségur de la santé, entre ceux qui disent on va continuer, on va améliorer le système, il n'est pas tout à fait parfait, mais il faut l'améliorer, et puis ceux qui, comme l'appel des soignants, dont vous n'êtes sûrement pas très éloigné en l'occurrence, puisque je crois que c'est André Grimaldi qui l'a en partie initié, qu'il est votre co-auteur.
Non. Si, bien sûr.
Voilà.
Complètement d'accord avec
vous. Donc, qui lui voudrait revenir à un système totalement public, extrêmement généreux, un peu comme le titre le dit, les jours heureux, comme au lendemain de la libération, même si on a tendance généralement à considérer que quand on travaille en historien, que ça n'était pas aussi extraordinaire que ce qu'on en a gardé comme souvenir, puisque c'était la base du système de sécurité sociale, mais qui n'était pas parfait.
Je voudrais pas parler à la place de André Grimaldi,
mais
je pense qu'il n'est pas.
Mais sur
cette
tension, pourrait-on dire, entre libéraux ou néolibéraux qui voudraient donc améliorer le système, même s'il ne marche pas très bien, et puis ceux qui voudraient revenir à un système très différent, on le sent, ça.
Oui, non, mais je pense que, si vous voulez, d'abord, notre système repose sur une contradiction historique, c'est-à-dire qu'on a socialisé à hauteur de 80% la dépense, hein, comme il a été dit, via la sécurité sociale, et par ailleurs, on a quand même l'hôpital public, on oublie de le dire, mais c'est quand même l'îlot public au sein d'une offre privée.
Ouais. Hein, et c'est, puis c'est comme pour la sécurité sociale avec les complémentaires privées.
Voilà, voilà, c'est ça. Il y a les complémentaires santé.
Les mutuelles.
Bon, alors ça, c'est les mutuelles, etc., qui sont venus combler le vide quand les pouvoirs publics rabotaient les prestations d'assurance maladie. Mais au-delà de ça, il y a la médecine de ville, il y a les cliniques privées, etc. Donc la question, c'est qu'on est, il y a une contradiction historique dans notre système et qu'on n'a pas résolu. Et donc la question, c'est comment on la résout. Voilà, et je pense que c'est le défi des années à venir, c'est-à-dire effectivement, moi je pense qu'il faut, comme les fondateurs de la sécurité sociale le voulaient, c'est-à-dire rendre indépendantes et sanctuariser notamment les recettes de la sécurité sociale, mais aussi en finir, alors je pense que je vais m'attirer des foudres, mais en finir avec une, je dirais, une conception assez doctrinaire et intransigeante de la médecine libérale, liberté d'installation, liberté de fixer ses honoraires, etc. Parce que ça
n'est pas compatible. Vous êtes pour le salariat même, carrément.
Non, pas forcément. Mais... Il peut y avoir des formes de capitation. On peut garder, comme en Angleterre, enfin, etc. Donc la question, et d'ailleurs en Angleterre, les médecins généralistes sont mieux payés qu'en France. Mm-hmm. Hein, donc je pense qu'il y a une contradiction là, qui fait que d'ailleurs la crise hospitalière n'est que jamais... C'est pour ça que je trouve assez dommage cette histoire de Ségur de la santé, parce que l'hôpital est finalement le lieu de cristallisation de tous les dysfonctionnements du système de santé.
C'est ce qu'on dit depuis un an et depuis la grève voilà. Des hôpitaux.
Oui, mais vous voyez bien qu'avec le Ségur de la santé, on veut résoudre la crise de l'hôpital sans finalement regarder l'amont et l'aval de l'hôpital. Or, on ne résoudra jamais la crise de l'hôpital sans résoudre, sans se doter d'un service public de la médecine de premier recours. Et c'est pour ça que je suis parfaitement favorable à l'appel qui est paru dans Libération sur les 5 services publics de la santé. Moi-même, j'ai écrit avec André Grimaldi, Dita Buteau, et puis François Bourdillon et Olivier Lioncan un manifeste pour une santé égalitaire et solidaire, où on le disait déjà dès 2011. Donc voilà, et en aval, le médico-social, effectivement, avec une 5e branche de la sécurité sociale.
Voilà. Vous pouvez lire cet appel justement sur le site de Libération, comme vous pouvez lire sur le site des Échos, l'article, donc l'entretien de Martin Hirsch de la Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui évoque justement les changements à venir vu de son point de vue de directeur général de cette APHP. Votre livre, Frédéric Pierru, le dernier, paraît dans 2 jours, donc avec tout un tas de contributeurs. Ça s'appelle Santé Urgence et c'est chez Odile Jacob. Merci à vous, Clémence Thébault. Merci à vous, Laurence Hartmann, d'avoir été avec nous pour débattre de cette question. Quel prix pour la santé ? C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier et Manon Prissé ont travaillé avec moi pour préparer cette émission. Audrey Guélil était à la technique et Olivier Bétard à la réalisation. Vous pouvez également aller sur le site de France Culture pour continuer à lire nos conversations mondiales. Vous savez, ces textes que nous écrivons, que nous demandons à des auteurs du monde entier d'écrire. Ils sont intellectuels, ils sont artistes, ils sont écrivains. Et aujourd'hui, nous avons publié le texte d'Alessandro Giacone, historien italien, sur ce qui se passe en Italie en matière de politique à partir de la crise du coronavirus. Demain, nous vous parlerons du marché du livre. Tout changer pour ne pas sombrer.